à cette table. Moi, je suis Emmanuel Vallon et maître de conférence à Paris 10, donc voisin de Nanterre-Amandier, enseignant en sciences politiques et enseignant également au département des arts du spectacle, donc assez intéressé par la façon dont le théâtre peut rendre compte de la guerre ou d'un après-guerre et d'une façon plus générale du conflit. J'ai à ma droite Myriam Revaud-Dallone, la philosophe que je pense nombre d'entre vous connaissez et à qui on va demander aussi en quoi cette réflexion sur la guerre et ses conséquences et sa continuation a pu traverser la pensée et l'expression littéraire ou dramatique. Et puis j'ai également Diane Kolnikoff qui anime l'association Primo Levi. Je pense qu'elle vous expliquera tout à l'heure ce qu'est cette association et comment elle intervient dans des situations qui sont celles effectivement des conséquences de conflits et notamment, si j'ai bien compris, auprès de victimes ou de familles de victimes. Et puis à ma gauche, j'ai Rudolf Rahr qui est en bout de table, l'éditeur de Lars Noren, qui donc est l'auteur et le metteur en scène de la pièce que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue ou que d'autres, comme moi, découvriront ce soir et qui nous expliquera que cette pièce s'inscrit, elle aussi, dans un ensemble de textes qui essayent de revenir sur ces questions. Et puis la personne que je connais le mieux à cette table est Véronique Naumgrapp, qui est anthropologue, chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous nous sommes retrouvés souvent, effectivement, autour de combats un peu désespérés et souvent désespérants ayant trait à la guerre en Yougoslavie. Et c'est une... aussi une chercheuse de terrain, parce qu'en dehors de ses essais, il lui arrive souvent d'arpenter des terres et des pays qui ont été ravagés par le type de conflit moderne dont nous allons sans doute vite parler. Voilà, alors je n'ai pas l'intention vraiment de faire une introduction, parce que je suis plus là pour participer au débat avec... les personnes qui sont ici, parce que je pense que le plus important est sans doute de partir de ce qui nous rassemble là, c'est-à-dire une pièce et donc une recherche autour de la parole, autour des corps aussi, de la façon dont ils peuvent témoigner des répercussions d'un conflit. Ce qui m'a fait un petit peu hésiter sur la façon d'aborder les choses avec vous, c'est ce « après » de la vie après la guerre. Je crois que ce « après » va être conditionné par une définition des guerres dont nous allons parler. Je ne suis pas sûr que les guerres qui ont pu inspirer Lars Noren et celles qui nous tourmentent aujourd'hui et qui se déroulent, connaissent véritablement des après. Elles connaissent souvent des avant, dans la mesure où il y a des périodes d'accumulation de conflits, des périodes de tensions, des périodes où des forces sociales, politiques, parfois aussi des courants intellectuels s'exercent à la dénomination de l'ennemi, hein, selon une définition de la politique qui, personnellement, me repousse et ne me convient pas, mais qui revient un petit peu à la mode en même temps que Carl Schmitt, définissant la politique comme la faculté de déterminer l'ennemi. Ces guerres ont effectivement un avant. Elles ont un pendant qui est sans doute la mise en action de cette faculté à déterminer et le déploiement dans l'espace, dans le temps, dans le corps social, dans le corps civil de cette faculté. Je doute que même après le cessez-le-feu, ces guerres que nous avons en tête et qui d'une certaine façon continue en sourdine et qui, en tout cas, continue de faire effet sur les corps et sur les esprits, est véritablement la possibilité de cesser. Nous vivons ici dans un pays un peu particulier qui a connu trois guerres très importantes avec ses voisins et quelques autres alliés ou alliés de ses voisins dans un espace et dans un temps relativement resserré. Mais ces guerres se sont soldées par des traités, elles se sont soldées par des redéfinitions de frontières, elles se sont soldées par des changements de régime politique, elles se sont même, pour la dernière, soldées par des procès qui sont évidemment impuissants à en effacer l'extrême violence et la barbarie inouïe, mais qui ont permis de commencer à ouvrir symboliquement ce qui peut être considéré comme une période d'après-guerre. Et il n'est que de voir les projets politiques, les projets culturels qui se développent aujourd'hui entre la France et l'Allemagne pour comprendre que ces guerres nées il y a plus d'un siècle et demi dans une rivalité entre deux capitales d'empire peuvent, elles, sans doute connaître des après. Ce sont des guerres qui ont ravagé la société civile, mais dont la société civile n'est devenue l'ennemi qu'au fur et à mesure de leur processus. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale est déjà, pour nombre d'habitants de l'Europe, une guerre dirigée contre les civils. La particularité des conflits qui continuent à se dérouler en Europe, qui se déroulent en Tchétchénie, qui se déroulent à froid entre factions ou entre groupes politiques ou entre groupes sociaux ou entre communautés momentanément apaisées, la particularité de ces conflits, c'est d'avoir été mené avec des moyens militaires modernes contre des civils. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est si difficile pour ces civils, après le cessez-le-feu, de parler d'après-guerre. Voilà ce que je voulais dire pour mettre entre guillemets cet après, sachant que la guerre, elle, n'est pas entre guillemets et que la vie, heureusement, n'est jamais seulement entre guillemets. Alors je passe la parole tout de suite à Rudolf Rach parce que je trouve utile qu'il dise comment il a rencontré ce texte de Lars Noren, ce qu'est sa vision à lui et aux gens avec qui il travaille, aux écrivains avec qui il travaille, d'une vie après la guerre.
Oui, mais ça c'est pas le sujet du débat. J'ai rencontré le texte, je crois, trois mois. Il y avait d'abord un autre texte que Noren a voulu mettre en scène, proposer donc aux deux théâtres, Nanterre et Vidi. Les directeurs des deux théâtres trouvaient ce texte moins apte à être présenté donc au public français dans une mise en scène de Noren, et après il s'est décidé donc d'écrire cette pièce là donc je connais le texte pas très longtemps, hein. D'ailleurs je voudrais dire, il y a, en ce qui concerne ma position, pour moi la guerre est un sujet esthétique. Quand je vous entends parler, notamment donc des personnalités qui vont donc intervenir, il s'agit d'un traitement psychologique, social, politique. Ma position est complètement différente. J'observe avec étonnement et préoccupation que le nombre des pièces qui traitent le sujet de la guerre augmente non seulement chez les auteurs français, mais également chez les auteurs anglais, maintenant suédois, allemands. Ça veut dire c'est un phénomène assez généralisé et, à mon sens, préoccupant, parce que derrière ce phénomène esthétique, il y a un phénomène social, c'est-à-dire apparemment la globalisation fait entre autres que les guerres qui ont lieu donc ailleurs se répercutent ici dans des phénomènes esthétiques de notre société. Donc il est tout à fait juste ce que vous dites. Il n'y a probablement pas une vie après la guerre. Il n'y a que un avant la guerre. Il y a la guerre et après la vie continue. Pour moi également, cette pièce-là, la pièce de Noren, c'est en quelque sorte, on peut dire, voilà, c'est une vie après la guerre, mais on peut également dire la vie continue. Et si la femme osait au début de la pièce dire voilà, j'étais plus attendu parce que je pensais que tu étais mort, si elle ajoutait voilà, et donc entre-temps donc j'ai commencé une liaison avec ton frère, le drame ne pourrait pas avoir lieu. Donc ça, c'est un phénomène complètement privé, c'est pas un phénomène social, c'est un phénomène privé qui a à faire avec notre comportement quotidien, avec notre comportement en tant qu'être humain dans des relations sociales. Ça, en quelque sorte, la guerre agrandit donc les traits, c'est-à-dire la guerre qui a eu lieu avant agrandit les traits, mais ça reste un drame bourgeois. C'est pas effectivement une analyse des causes de la guerre, ou c'est-à-dire une description de la guerre, parce que cette description, le théâtre, elle n'en est pas capable. Le théâtre ne peut pas décrire le déroulement d'une guerre. Il n'a pas les moyens techniques. C'est réservé au cinéma. Le cinéma le fait, plus ou moins avec succès, mais le théâtre s'intéresse à d'autres choses.
Merci. Je crois que ce que vous dites est absolument vérifié par l'expérience d'autres éditeurs, mais par l'expérience du spectateur, parce que, en effet, le thème de la guerre est revenu en force au théâtre ces dernières années, avec des références qui sont souvent masquées, mais relativement évidentes pour les spectateurs. Je laisse de côté... quoique cette pièce fort décapante et douloureuse se soit passée ici même, a été représentée ici même, le Requiem pour Srebrenica d'Olivier Py et de ses amis, qui faisaient là, pour le coup, référence non seulement très directe à ce qui s'est passé au massacre de Srebrenica le 11 juillet 95, mais qui de plus puisait sa matière et sa parole dans le langage des généraux, dans le langage des factieux, dans le langage des journalistes, dans les déclarations du général Mladic, dans celles des représentants de l'ONU, etc. Mais je pense bien sûr aux nombreuses pièces d'Edward Bond, y compris à Nanterre, vous avez pu découvrir, pièces de guerre et d'autres. À propos du conflit au Liban, à la pièce de Adel Hakim, Exterminateur 14, je crois, ou 17, je ne sais plus quel est le numéro qui était donné. À propos toujours du Liban, à une pièce d'Enzo Corman, qui pourrait d'ailleurs parfaitement prendre pied dans la Yougoslavie ou dans le Kosovo d'aujourd'hui. Je pense évidemment à Matej Wisniewski et à une pièce qui a beaucoup tourné en France et en Europe qui s'appelle « Le sexe de la femme dans le champ de bataille » et qui parle directement de l'après-guerre et du poids de souffrance, du poids de silence que deux femmes s'efforcent de remuer dans une situation du type de celle que Véronique Naumgrapp a pu rencontrer et connaître. Je pense aussi à une pièce bulgare d'un certain Hristo Brojchev qui avait eu les honneurs du Festival d'Avignon avec le colonel des oiseaux. Il y en a beaucoup d'autres. Ce n'est évidemment pas par hasard si les auteurs, sans doute, prennent conscience de ce que la guerre est à l'œuvre et de ce que leur œuvre ne peut qu'aborder ces questions-là. Ils le font parfois, comme ça a été le cas aussi avec le groupe OFF, une compagnie belge qui a beaucoup travaillé sur le Rwanda, avec la volonté de faire comprendre et pas seulement de faire sentir, pas seulement de témoigner. Alors, je voudrais bien, entre ce faire sentir et faire comprendre, entre ces deux versions du témoignage, demander à Myriam Revaud-Dallon comment elle les ressent et comment il lui semble possible aujourd'hui d'interpréter, que ce soit dans un sens esthétique ou dans un sens politique ou dans un sens philosophique, ce que nous savons de ces situations d'après-conflit.
Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à fait au début, sur le caractère tout à fait problématique donc, de cette expression après la guerre, et sur le fait qu'au fond, les guerres sur lesquelles, enfin les guerres entre guillemets, hein, ou les, disons les conflits, non, on ne peut même pas dire les conflits, ce à quoi comment dire, nous assistons et à quoi il nous est demandé de réagir, n'a pas grand-chose à voir avec la guerre au sens classique du terme, qui effectivement suppose bon, la désignation d'un ennemi qu'on se donne au fond pour finalité de vaincre. Bon, alors d'une certaine façon, il y a quelque chose qui s'est passé effectivement dans notre siècle et qui est que ces nouvelles guerres dont vous avez signalé qu'elles étaient dirigées contre des civils sont des guerres qui, non seulement qu'on peut dire que leur visée a été très souvent une visée d'extermination, hein, mais plus encore, avant même l'extermination, des guerres d'anéantissement. Bon. Et là, c'est un peu sur le terme d'anéantissement que j'aimerais revenir. Des guerres d'anéantissement, pas simplement de la personne physique, hein, donc, mais des guerres d'anéantissement, au fond, de la personne humaine, hein, de l'humain en tant que tel, avant même qu'on ne procède à l'extermination. On sait, par exemple, et là, par exemple, dans la pièce de Lars Noren, c'est quelque chose qu'on voit tout à fait à l'œuvre, puisque ça pose très explicitement le problème du survivant, hein, qui, d'une certaine façon, qui n'est pas, le survivant n'étant pas simplement le soldat qui revient dans son foyer, mais tous les personnages de la pièce sont des survivants, et le survivant qui revient en quelque sorte au monde des vivants, hein, et bon, pour qui se pose, disons, le problème d'un après qui, en fin de compte, n'est pas un après, mais qui est la continuation du traumatisme. Alors, on sait maintenant assez bien comment on procède en général à cet anéantissement de l'humain, dont Arendt, notamment, avait analysé très précisément les trois étapes dans les camps d'extermination, les étapes qui sont des étapes préliminaires du génocide. Premièrement, l'anéantissement de la personnalité juridique, hein, la perte de l'identité juridique, ce qu'on a retrouvé très clairement en Bosnie et au Kosovo, quand on arrachait les plaques d'immatriculation des voitures, quand on enlevait les papiers d'identité à des populations qui fuyaient. Donc ça, c'est la perte de la personne, de la, comment dire, de la volonté de faire disparaître la personne juridique. Ensuite, l'atteinte portée à la personne morale. Hein, et troisièmement, l'atteinte portée à la singularité même de l'individu qui se retrouve dans la situation de n'être plus qu'un échantillon, en quelque sorte, de l'espèce humaine. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, si, au fond, un concept nouveau est apparu sur le plan juridique avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1946, qui est le concept de dignité humaine, qui n'était pas dans la Déclaration des droits, qui ne faisait pas partie de la batterie conceptuelle de la Déclaration des droits du XVIIIe siècle. Alors, je crois qu'ici, enfin, ce que nous avons à interpréter, ou les questions que nous posons aujourd'hui devant ces guerres, entre guillemets, tout à fait inédites, qui sont des guerres dont le processus implique non seulement l'atteinte à des personnes civiles, mais cet anéantissement de l'humain, c'est effectivement ce que nous retrouvons également dans la pièce, très clairement dans la pièce de Lars Noren, c'est qu'à un certain moment, des repères classiques qui nous permettent au fond de nous déterminer sur le plan social et culturel, comme la frontière entre l'innocence et la culpabilité, sont des repères qui se brouillent. Hein, et que, par exemple, on sait que les nazis ont voulu tout à fait délibérément effacer cette limite entre l'innocence et la culpabilité en érigeant le fait d'être né tel ou tel comme une sorte, je dirais, d'innocence monstrueuse, hein, puisque le crime d'être né est quelque chose, et qu'on en retrouve évidemment dans les guerres, les génocides actuels, ou les crimes contre l'humanité, que c'était dans l'ex-Yougoslavie ou que ce soit évidemment au Rwanda. Et donc, l'un des problèmes sur lesquels il nous est demandé de réfléchir, c'est cette question de l'anéantissement de l'humain, de la disparition de la frontière entre l'innocence et la culpabilité, de telle façon que, effectivement, le survivant qui tente de revenir au monde des vivants n'y parvient pas, hein, n'y parvient pas, ou qu'il lui est difficile, en quelque sorte, d'y revenir. Et donc, qualifierait cette difficulté de la sortie de guerre, je vois bien ici le caractère très problématique de ces expressions, au fond, ces types de destruction ou d'anéantissement inédit nous confrontent à ce que j'appellerais une perte en monde, une perte en monde commun, la perte d'un monde commun, et au fond l'effacement de ou la l'obliteration de cet espace qui au fond que nous que de ces de ce que nous partageons qui nous permet de vivre en commun en sorte que par exemple quand vous avez posé la question de savoir comment on peut accéder à travers des textes littéraires à ce type de problème, bon alors il y a évidemment toutes ces pièces, ces textes de théâtre auxquels vous avez fait référence, mais il y a aussi les grands textes de la littérature concentrationnaire. Hein. Aussi bien d'ailleurs les textes de Primo Levi, évidemment, « Si c'est un homme », vous voyez le titre même, « Si c'est un homme », qui rend absolument problématique cette question de l'humanité, de l'humain, de l'inhumain dans l'humain, de ce que l'homme... la phrase de Primo Levi, c'était ce que l'homme à Auschwitz peut faire de l'homme, hein, ce que l'homme fait à l'homme, ce qu'il fait de l'homme. Les textes d'Anthelme, évidemment, pour l'espèce humaine, et puis aussi bien les textes de Chalamoff, hein, les récits de la Colima qui posent, parce que Chalamoff se demande à un certain moment, dit très explicitement, de quel matériau l'homme est-il fait pour que l'on puisse, d'une certaine façon, opérer, au fond, ce type de transformation. Donc, au fond, nous sommes confrontés maintenant à quelque chose qui est tout à fait inédit. C'est-à-dire, au fond, il y a pire que la guerre, il y a pire que la mort. Je m'arrête là.
C'est une fin qui nous laisse évidemment un peu... interdit,
c'est une question.
Mais c'est qui ouvre évidemment une question. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que, en effet, la qualité de civil, après avoir été celle de cible, dans des situations comme celle de nombreuses villes de l'ex-Yougoslavie, par exemple Zepa ou Srebrenica, ou il y a quelque temps encore à Pristina, ou aujourd'hui encore à Grozny, c'est d'être un survivant. Et non pas de nouveau un vivant, un civil en paix. Parce que ce qui a été détruit, je pense que vous avez raison d'y insister, c'est quelque chose de la croyance d'une communauté, mais d'une communauté dépassant celle assignée par l'identité civile, religieuse ou juridique d'une plus vaste communauté humaine. Les trois niveaux d'Anna Arendt, j'en entends un peu l'écho dans ce résumé que quelqu'un faisait à propos du film de Lanzmann sur l'extermination des Juifs, sur ce que Hilberg appelle la destruction des Juifs d'Europe, en disant finalement, tout se passe comme si on disait d'abord, au début, vous ne pouvez pas vivre comme nous. Ensuite, vous ne pouvez pas vivre ici. Et enfin, vous ne pouvez pas vivre. Alors, cette gradation n'a pas toujours eu lieu dans des conflits qui semblaient livrer l'individu et sa communauté à l'affrontement d'une autre communauté. C'est en tout cas ainsi que souvent ces conflits sont relatés, ainsi qu'ils sont vus. Ce qu'on oublie de dire, en général, dans ces cas, ce qu'on n'a pas à faire simplement à la tribu des chiens qui affronte la tribu des chats, ou des chats de tel quartier qui affrontent les chats d'un autre quartier, c'est qu'on a affaire à des entreprises de nature différente, des discours de nature différente, et bien entendu des moyens d'anéantir qui sont en général sans commune mesure d'un côté et de l'autre. On peut longuement remonter la généalogie des haines entre Hutu et Tutsi depuis la colonisation belge dans cette région d'Afrique centrale. Il n'empêche qu'au moment où les généraux Hutu et un certain nombre de politiciens extrémistes lancent le massacre, ils disposent pour ce faire de moyens de propagande, de moyens d'extermination absolument considérable et qui provoque ainsi une situation qui n'a plus rien à voir avec la rivalité de communautés. Et ces situations de l'après, lorsque une force d'interposition, lorsque un coup d'État, lorsque des moyens de pacification sous couvert de l'ONU ont été employés, ces situations qui s'établissent ne sont pas des situations de retour à la normale. Hein. On a, à bien des aspects, aussi quelque chose qui est brisé dans le sens que chacun a, la certitude que chacun a de pouvoir être constitué comme homme ou de pouvoir être constitué comme femme. Et c'est de ça que, entre autres, j'aimerais bien que Véronique Naumkrak puisse nous parler, parce que je sais qu'elle y a beaucoup travaillé et beaucoup réfléchi.
Entre autres, parce que je me suis un peu arrêtée au titre, l'après-guerre, et donc quelques réflexions. L'après-guerre suppose qu'on sache à peu près ce que c'était que le pendant la guerre. Et il me semble que guerre et paix sont deux cadres de l'action, mettons, sont des cadres, mais complètement dissymétriques. Ainsi, le fait d'être en paix et d'avoir des guerres historiques, historicisées, très mises en scène au cinéma, mais quand même un peu oubliées dans les biographies, ce qui est le cas, heureusement, quand même un peu de la France, malgré tout, comparé à d'autres pays. Donc le fait d'être en paix, mettons pour une génération, fait que la paix disparaît absolument comme paramètre, comme contexte, elle disparaît un peu comme la bonne santé de l'être humain, de la conscience, et la paix disparaissant, on ne se rend pas compte à quel point toutes les positions, tous les regards, et en particulier sur l'esthétique de la guerre, ne prennent leur sens que dans ce cadre de la paix. Ça veut dire que dès que le cadre de la guerre se rapproche, elle arrive, des informations, du bruit, des coups de pétard la nuit, c'est des pétards, sont des coups de feu. Tout le début de la guerre en ex-Yougoslavie, d'après les témoignages, est absolument fascinant, une guerre jamais déclarée. Mais quelque chose montre le ton de la propagande, les disputes très graves entre vieux amis qui tout à coup se mettaient à hurler de façon démesurée. Le cadre change et quand elle est là, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'on croyait percevoir, aux idées qu'on avait avant. Et même, en vrai dire, on a complètement oublié le cadre ancien de la paix qui vient d'une espèce de rêve incroyable. Et toutes les perceptions, le rapport à l'ennui, le rapport à la boisson, le rapport au sommeil, la peur, ne parlons même pas de la peur, mais le rapport à la sexualité, tout ça change. Alors, ça, je trouve qu'il faut le rappeler parce que quand on est dans l'après-guerre, on est, d'abord, plein de gens ne sont plus là, plein de choses ne sont plus là, et on est dans la suite. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est arrêté, qu'est-ce qui est après. Est-ce que c'est après, c'est que les canons ne tonnent plus, donc un traité, l'arrêt du bruit et de la démolition avec les armes. Ça s'arrête. Alors qu'il y a quelque chose qui reste, qui est encore des débats, des conflits de la guerre, mais les canons sont tus, mais il y a eu des désastres, mais ils ne sont plus là, mais ils ont changé, mais tout le monde a vieilli. Et il s'est passé, tout le monde est devenu autre chose que ce qu'il croyait être, etc., etc. Et j'y reviendrai, et c'est là qu'à mon avis, les deux perspectives de l'après-guerre sont complètement différentes. Un, pour les victimes, bien sûr, deux, pour les bourreaux, mais aussi, ces deux paquets sont traversés par la différence des sexes, hommes-femmes, en temps de guerre et selon les guerres, c'est assez différent, pas toujours, mais assez différent. Le rapport au temps, à l'espace, on pourra y revenir dans les questions. Mais aussi, je dirais, une troisième diagonale qui traverse tous ces paquets, c'est-à-dire bourreau, victime, homme, femme, etc., qu'on peut appeler, parce que c'est théâtral, peuple et décideur. Si vous voulez, en temps de guerre, la chose est vraiment tranchée. C'est même peut-être ce qui définit le plus la guerre, c'est-à-dire que les décideurs de la guerre, surtout dans les guerres modernes, ne sont plus sur le terrain de là où la guerre fracasse ce terrain, si vous voulez. Sinon, elle s'arrêterait, cette guerre. Donc c'est même une des conditions. C'est-à-dire que cette opposition-là, y compris en 14-18, mais disons que la condition de guerre, où beaucoup de dégâts sont commis en termes de morts et de désastre, si vous voulez, quand l'ampleur du désastre est colossale, eh bien, la différence, l'écart entre décideurs et, appelons ça, peuple, est devenu un fossé absolument immense. Alors, la guerre, il me semble, moi, que notre imaginaire des guerres contemporaines est absolument piégé au sens du piège qui vous prend à la gorge et qui vous empêche de respirer par les images mille fois mises en scène au cinéma, parce que le théâtre déconstruit les stéréotypes de 40-45. Même quand on va sur le terrain d'une guerre contemporaine, on est piégé parce qu'on a vu ces images, parce qu'on est, je ne sais pas, les bombardements, les sirènes, la façon dont les maquisards montent se cacher, se cachent derrière un buisson, des bombardements, et puis... Alors que les guerres de la fin du XXe siècle, celles dont nous parlons ici, c'est-à-dire qui sont spécifiques, c'est-à-dire en gros nous pensons tous au Rwanda, à l'ex-Yougoslavie, à la Tchétchénie qui fait rage actuellement, peut-être on peut aussi appeler guerre ce qui s'est passé en Algérie, la deuxième guerre d'Algérie entre 1992 et maintenant, puisqu'il y a quand même 150 000 morts et qu'il y a presque 800 000, plus d'un million de personnes de déplacées et des dégâts. Mais le mot guerre, effectivement, n'est plus tout à fait adéquat. En disant guerre pour l'Algérie, un événement terrible, mais sans nom, je lui donne une espèce de dignité de cadre, mais peut-être j'enfausse aussi peut-être la réalité historique, sociale, géographique, etc., et politique. Si je dis les guerres en ex-Yougoslavie, on a l'impression, on retrouve notre Macédoine, le Méli-Mélo, mais je fausse aussi ce dont je parle. Donc c'est vrai que le mot guerre est problématique, mais quand même, il faut l'employer, parce que quand même, c'est bien la guerre, c'est bien ce changement de cadre, où tout à coup, le rapport à la peur, au danger, à la mort d'autrui, au cadavre, bien des jeunes Français soldats en ex-Yougoslavie n'avaient jamais vu de cadavre ni de charnier de leur vie entière avant d'arriver sur le terrain de l'ex-Yougoslavie. C'est quand même, ce sont des spectacles en général, des corps morts d'êtres humains, dont en temps de paix, on protège les yeux des citoyens à tous les âges, enfants. C'est une chose qui est, on le protège en sens au coin de la rue. Je ne dis pas l'esthétique du cadavre, mais au coin de la rue. Alors, il nous manque des images pour penser les guerres présentes, et notamment, par exemple, l'idée de siège, le mot siège même fait même médiéval. Alors, il est même plus, c'est même plus 40-45, c'est pas une fortification avec des chevaliers en armure. Donc. Et en réalité, une ville moderne, il y a des tours de 26 étages, il y a des grandes rues, il y a des métros, il y a des tunnels, il y a des supermarchés, il y a des... Au-dessus de Sarajevo, il y avait un tremplin de ski démoli, sans intérêt. Parce que quoi ? Parce qu'il faisait affaire... Parce que justement, le tremplin de ski, il y avait eu des Jeux Olympiques avant, obligé à penser la modernité dans la guerre, une modernité du sport, de banal en quelque sorte, mais en même temps un peu festive, le tremplin. Et l'espèce d'effet de régression de ce type de guerre fait qu'un tremplin, ben ça non, on l'enlève. Il ne fait pas bien dans le décor, il n'est pas à sa place, parce que cette guerre-là, ce genre de guerre-là, ce mot de siège supposait un certain type d'imagerie. Alors, le siège d'une ville moderne, en réalité, rien ne nous dit par rapport au siège d'une ville d'époque antérieure, et peut-être les sièges ne se ressemblent pas entre eux, premier point, historiquement. Mais deuxième point, c'est spécifique, une tour de 26 étages. Le béton, il tient, même s'il est troué de tous les côtés. Bon, l'ascenseur, n'en parlons plus, l'eau, n'en parlons plus. Alors, quelqu'un qui est au 26e étage avec des parents très âgés, mettons, il n'y a plus d'électricité, donc il est 4 heures de l'après-midi, il fait nuit, rapidement, il va faire moins 15. Le temps, cette personne-là, par exemple, qui descend chercher l'eau, elle laisse les deux parents grabataires, il faut pas, c'est le noir. Le temps de chercher l'eau, c'est très long, tous ces étages, la montée, elle va geler. Vous voyez, c'est-à-dire que la modernité technologique tellement merveilleuse en temps de paix, quand on en est privé, de choses aussi simples que le gaz, l'eau, et tout, ça devient quelque chose de spécifique. Je ne dis pas que c'est pire, c'est mieux, mais l'espèce de complication extrême de la vie physique dans le cadre d'une ville moderne, c'est quelque chose que nous sommes incapables d'imaginer de l'extérieur, même avec toutes nos images, notre esthétique de la guerre en temps de paix. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en aurait plein. Et en Tchétchénie, c'est encore... Mais Grozny, c'est aussi ça. Faut pas rêver. Alors, autre exemple, en même temps qu'il y a la guerre quelque part, je pense à nos trois guerres, mais peut-être surtout Tchétchénie, Bosnie, eh bien, en même temps, il y a aussi des écrans, ces télévisions, y compris dans le cercle où le conflit bat son plein, si j'ose dire, et à l'extérieur, et un tissu de commentaires. Et disons qu'il n'y a pas la guerre et un après-guerre, il y a un lieu où les regards qui viennent d'instances qui sont dans la paix. C'est-à-dire qu'ils sont dans la paix, parce que même quand l'avion passe au-dessus de Sarajevo à 7000 mètres en regardant un western dans les fauteuils confortables avec une charmante hôtesse qui propose un petit bonbon et qu'on regarde le vin, c'est la paix. Mais en dessous, le cercle, c'est la guerre. Et quand les Français voient, on dit oui, le siège de Sarajevo, il faut donner des bougies, du riz, etc., ils voient un lieu, mais eux, ils sont à tel point dans la paix que ce qu'ils perçoivent de ce lieu, sinon pas les images, en fait, ils perçoivent quelque chose de très énigmatique qu'on résout en disant, bon, ils ont soif, ils ont faim, etc., mais dont on ne perçoit pas du tout la forme, les images réelles, donc il ne faudrait pas employer le mot image, mais disons, l'espèce de on ne répond pas du tout à la question, par exemple, comment les gens vivent et qu'est-ce qui se passe là-bas, qui était la question du philosophe, qui est la question du sociologue, qui est la question de Goffman, mon sociologue préféré, et bien, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là-bas. On est incapable, quand on voit un documentaire sur une guerre qui se passe là-bas, de répondre à aucune des deux questions, ni qu'est-ce qui se passe ici, ni qu'est-ce qui se passe là-bas. Et on est presque dans un après-guerre contemporain, parce qu'il y a la guerre qu'on voit à l'écran, mais on est dans son fauteuil tranquille, etc. Et l'après-guerre, il est contemporain. On est déjà dans l'après-guerre, puisqu'on est dans la paix. La même paix d'avant la guerre, on sent la même paix d'après la guerre, et c'est ainsi que les guerres vues en tant que spectacle sont prises d'emblée comme déjà révolues, passées. C'est pour ça qu'elles peuvent durer 10 000 ans. C'est-à-dire 36 mois le siège de Sarajevo à peu près. C'était hallucinant de regarder devant nos écrans, comme dans le cirque, les gens se faire massacrer, etc. Et la Tchétchénie, on est les spectateurs d'un enfer complètement contemporain. Et on ne fait plus aucune manifeste. C'est-à-dire que la guerre en Bosnie, on pensait que c'était déjà une chose terrible, mais la guerre en Tchétchénie a démontré ce qu'avait commencé à montrer la guerre en Bosnie, c'est-à-dire cette espèce de notre situation de paix et notre façon de percevoir la guerre, la situation de la guerre, les deux étant totalement irréels, mais on est déjà dans un après-guerre, nous qui regardons la guerre. Donc elle peut durer sans fin et on ne bouge même plus, à part les petits comités qui s'agitent comme des fous. Alors là, ils arrivent dans les assemblées, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang, en ululant, alors les autres disent, tiens, il manque d'humour, ces gens-là, etc. Mais ils arrivent du terrain, ils sont dans un état épouvantable, ils ont l'air de fous, parce que le passage entre le contexte de la guerre, mettons sur un terrain donné, en Tchétchénie, et puis l'arrivée ici, au théâtre des Amandiers, ou dans les rues de la ville, c'est un passage qu'on ne franchit pas comme ça, c'est passer non seulement des kilomètres, mais des cadres. Et tant qu'on n'a pas réfléchi à qu'est-ce que c'est qu'un cadre de l'action, à mon avis, on ne peut pas poser la question de l'après-guerre. Alors, il y a aussi, et là je suis tout à fait d'accord avec la question des échelles, c'est central. Une guerre, c'est à la fois énormément de commentaires géopolitiques. Et le géopolitique, tout à coup, qui devient une espèce de compétence de la citoyenneté, surtout pour autrui, et qui devient vraiment le matériau des conversations, dans les cafés, dans les taxis, etc. Alors, avec des énoncés apodictiques, donc là, ce sont les Balkans sauvages, là, c'est un endroit en Afrique où il y a tellement de génocides qu'un de plus ou de moins, n'est-ce pas ? Ça veut dire un président français qui n'est plus là, une phrase mémorable, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a des énoncés, mais le point de vue géopolitique, évidemment, consiste à se mettre en position de ce que j'ai appelé tout à l'heure le décideur. Très loin, très loin, très loin, très loin, on met en Tchétchénie une espèce d'espace où c'est le prix à payer, si on en accepte le sacrifice d'autrui. Bon, ils meurent, mais ils ne pensent pas. Du point de vue géopolitique, il faut que la Russie, Poutine, il faut le respecter parce que, qu'il est gros, là, à l'Est, là. Donc on a la peur de lui, donc on le trouve formidable, et puis il boit pas au moins, il ne fume pas, etc. Alors par contre, et là on fait de la géopolitique parce qu'on dit, bon, soyons main dans la main, bon, on accepte, on est réaliste, on ne rêve pas, on n'est pas les intellectuels hirsutes dans les théâtres en disant oi, comme dans les Chiles, on dit soyons réalistes, etc. Ça se veut dire, pour la Tchétchénie, tant pis, c'est-à-dire on accepte, la géopolitique, c'est accepter le sacrifice d'autrui pour des raisons d'une haute rationalité, pour des raisons dites élevées, c'est-à-dire l'histoire du monde. J'avais entendu en Yougoslavie, mais une nation s'enfante toujours dans la douleur. Et je trouve qu'il faudrait faire une étude sur les métaphores géopolitiques qui sont, pour moi, la métaphore, c'est le crime. Dire une nation s'enfante dans la douleur, c'est une métaphore qui représente un gros ventre, du sang, et alors, oh, le beau bébé dans le sang. Alors, ça, c'est de la métaphore, c'est le crime. Et les géopoliticiens, sans les métaphores, ils ne peuvent plus tuer. Et les Balkans sauvages, donc c'est dire à la fois il y a une ère géographique qui historiquement est faite de telle façon pour ceci, cela. Alors là, érudition, les historiens, oui, cher ami, la culture est tout à fait du côté de la guerre, faut pas rêver. Cette culture-là, oui, n'est-ce pas, le grand schisme, etc. Et de tout temps, et jadis, et les grandes valeurs, et nonobstant, et hop, on explique que dans les Balkans, il y a une espèce de nature de compétence à l'entre-crime de voisinage qui fait qu'ils continuent comme ils ont toujours fait. Et ça a été l'argument, par exemple, pour les viols de guerre systématiques dont on a dit il y en a toujours eu, donc il y en a là. Mais vous voyez, quand on dit ça, il y en a toujours eu, oui, alors, relisons justement les tragiques grecs, etc. Et il y en a la guerre d'Algérie. Mais là, leur sens était peut-être un peu spécifique. Et donc, il y en a toujours eu, donc il n'y en a pas là, donc il n'y en a pas d'une certaine façon. parce que les viols de guerre, il y en a toujours eu. Et ça, c'est typiquement géopolitique. Mais enfin, de tout temps, cher ami, le repos du guerrier, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous raconter de ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces droits de l'hommiste, etc. Donc, la géopolitique devient une espèce de matrice, de métaphore boulimiquement dévorée et recrachée par tout le monde, et ça, des témoins, dans le monde des témoins, et ça fabrique l'acceptation du sacrifice d'autrui, et c'est ce qu'on fait pour la Tchétchénie, ce qui veut dire que, avec cette question des écrans partout et des commentaires, on est dans une situation historique, contrairement à 40-45 qui était très différent, où on est à même, on a l'estomac, on a pour accepter tranquillement le sacrifice d'autrui qu'on connaît, ce sacrifice étant de l'ordre des crimes contre l'humanité dont on a juré depuis l'année dernière qu'on ne les accepterait plus. Ou au moins, on n'est pas obligé d'embrasser le chef de guerre qui les pratique, au moins, ou de le trouver sublime. Vous voyez, au moins, s'il y a crime contre l'humanité, on a une petite réticence. On n'a pas de petite réticence. Alors, conclusion, et je vais m'arrêter là. Je n'ai pas le temps de parler, donc l'après-guerre du point de vue du bourreau de la victime, à mon avis, c'est deux océans de problématiques très différents. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces guerres contemporaines, leur lexique, le fait qu'on est piégé dans nos images par tous les films que nous avons vus sur d'autres situations, y compris d'ailleurs les films sur le Vietnam, qui sont absolument terribles, finalement, qui nous font du mal aussi, tout en dénonçant cette guerre atroce qu'était la guerre du Vietnam. Mais disons que ces guerres contemporaines, fin de siècle, en réalité, nous n'avons pas perçu à quel point il y avait... Elle nous donnait une information inquiétante sur la contradiction entre, sur le terrain, une extrême cruauté de type anéantissement de l'autre, c'est-à-dire des signes de sa présence, et donc avec des crimes contre l'humanité, et peut-être pas des génocides au sens de notre imaginaire historique, mais de la purification ethnique, si on peut employer ce terme, ou plutôt et de du massacre de populations civiles, avec les exodes, avec les camps, avec les tortures, avec les charniers, toutes ces choses-là, dans un cadre philosophique et politique de la fin du XXe siècle, où les idéologies raciales, racistes, mises en place par l'anthropologie du XIXe siècle, n'ont plus cours. C'est-à-dire que, encore dans les guerres coloniales, encore dans les guerres, encore en 40-45, l'idéologie raciale, raciste, antisémite du pouvoir nazi, elle était encore, elle pouvait être encore être portée par des anthropologues de Berlin, etc., qui pouvaient relire ceux du XIXe siècle et qui pouvaient se targuer d'avoir une théorie en correspondance avec les énoncés de la science du moment. Là, fin du XXe siècle, c'est cette chose-là. Normalement, elle est tombée en désuétude. Donc, on assiste à des guerres d'une extrême cruauté envers des populations civiles, alors que l'espèce d'artillerie idéologique qui devrait donner son sens à ces massacres, à ces génocides, en fait, elle n'existe plus. Alors, pourquoi? Je veux dire, ce que disait une vieille Kosovane, pourquoi ils ne nous tuent pas tous et ils nous volent nos terres, mais pourquoi tout ça? Et même quand on lit le livre d'Asfeld, donc les deux livres admirables, et pour le moment, on dit, pourquoi découper toc, 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 hein, et avec des gens qui payent pour être tués d'une balle, hein, plutôt qu'être découpés, etc. Pourquoi? Et ce pourquoi, à mon avis, on n'a pas commencé vraiment à réfléchir là-dessus. Il faudrait, parce que on pense toujours que ce sont des guerres du passé qui montrent la barbarie qui va tomber en désuétude. Non, il n'y a pas de barbarie. Il y a autre chose qu'il faut analyser et qu'on n'a pas encore...
Je vais faire circuler encore la parole d'un bout à l'autre de la table. Et ce que dit Véronique Naumgrapp suscite aussi des réactions à ma droite auprès de Diane Kolnikoff de l'association Primo Levi. Je me rends compte simplement que j'ai oublié de dire tout à l'heure... en vous priant de les excuser, que Jean Ratzfeld avait été retenu par un tournage auquel il doit se prêter et que Lars Noren n'a pas pu non plus être des nôtres, bien qu'il l'ait l'un et l'autre désiré. Voilà. Mais je vous donne tout de suite la parole pour qu'on revienne sur ces questions.
Oui. Moi, j'ai peut-être été celle qui était la moins dérangée par le titre de notre débat, parce que la vie après la guerre est probablement au centre de ce que nous faisons à l'association Primo Levi et le centre de soins. C'est un centre qui accueille des personnes victimes de violences politiques, de tortures, etc. Donc toutes les guerres qui sont donc en exil en France. On voit des gens de plus de 40 pays. Donc toutes les guerres que nous évoquons viennent, quand ils viennent en France, c'est de cette souffrance-là que avec lesquelles nous travaillons. Alors, je rebondirai un peu sur les différentes personnes qui ont parlé avant. Je pense que il y a une spécificité de ce qui se passe depuis, disons, la Shoah. Je pense que Myriam l'a très bien décrite en parlant de l'aspect de l'inhumanité. Je crois que quand la guerre se termine, elle continue chez les personnes qui ont été victimes, les survivants, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est assez frappant de rencontrer parmi nos patients cette résidu de quelque chose qui est indigérable parce que la souffrance étant extrême, de par le fait qu'on a cherché, et ils le ressentent bien, quelle que soit leur origine culturelle ou autre, qu'on a cherché à détruire l'humain en eux. Et je pense que ça, c'est vraiment un aspect de la spécificité de toutes ces guerres-là, c'est ce désir de détruire l'humain en eux. Et la difficulté, justement, qu'ils ont ensuite, Primo Levi, on en a parlé, Georges Semprun, beaucoup d'écrivains, du silence qui se fait après, la difficulté de pouvoir même en parler, tellement on a peur de ne pas être entendu, ce qui est souvent le cas, de ne pas être écouté, ce qui était aussi souvent le cas, et du coup, un chape de silence qui tombe. Ensuite, je pense que cette inhumanité, c'est l'aspect de l'inhumanité, rend très difficile la prise en charge des personnes qui viennent nous voir. Parce qu'ils ont senti aussi qu'ils ont été atteints au niveau de leur communauté, du lien social, du rapport à l'autre. Et comment ensuite faire confiance? Comment faire confiance à l'homme après? Je pense que Lars Norén, aussi bien que Jean Asfeld dans son livre, qui est extrêmement vrai, en se concentrant sur des histoires singulières, met le doigt justement sur la manière que la personne, la famille, l'individu, homme, femme, enfant, sont atteintes par ces dernières guerres-là. Et je pense que le travail thérapeutique que nous essayons de faire au centre, c'est d'essayer de réintégrer quelque chose de l'ordre de la confiance dans l'humain. Et ce n'est pas par un travail de catharsis, raconter votre histoire, je crois qu'il ne s'agit pas de cela. Il y a une place pour le témoignage, ça c'est autre chose, et puis il y a une place pour le soin. Et le soin, le travail thérapeutique, est plutôt d'essayer de rassembler quelque chose de l'humain, d'essayer d'aider les personnes à relier quelque chose de leur vie. Par exemple, on nous dit très souvent « je ne suis plus pareil qu'avant ». L'avant était une vie qui n'existe plus, et il y a le présent, et il y a le trauma qui se vit en perpétuité, un peu dans un film qui se déroule sans cesse en soi. Et comment trouver les liens, justement, entre le passé traumatique, le présent du trauma, qui continue à vivre dans l'individu même loin de chez lui, et la possibilité même d'envisager un avenir. Et je crois que le travail thérapeutique sert à cela, non pas dans le raconter l'histoire, mais déjà de pouvoir mettre des affects, des mots sur ce qu'on a ressenti par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au fait d'être un survivant, d'être en vie quand d'autres sont morts, et de se retrouver dans une communauté humaine. C'est peut-être à travers ce travail autour de l'humain, dans la création d'un lieu de confidentialité et de confiance, que notre travail se situe, d'être un lieu où peut-être pour la première fois des personnes peuvent dire ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont ressenti. Et quand vous avez dit au début que l'histoire singulière, justement, et que l'histoire de la mère dans la pièce est un peu une drame bourgeoise, elle vit autre chose, etc. etc. Je reviens beaucoup sur le fait que ce sont quand même que des drames singulières et que peut-être même cette histoire-là, effectivement, qui est une drame bourgeoise, en fait, qui pourrait se situer ailleurs, était peut-être, comment je pourrais dire, rehaussée par ces faits de guerre où tout est détruit, où tous les liens, même à l'intérieur d'une famille, sont disloqués.
Oui, et si vous liez à cela ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'explication du tout au massacre. Mm-hmm. Il y a plus, on ne dit plus, c'est-à-dire, comme vous disiez, les nazis pouvaient encore à la limite se référer donc, à des thèses, des chercheurs qui avaient des choses complètement idiotes, mais quand même avaient dit et soutenu par des preuves ou fausses preuves, peu importe.
Bien sûr, bien sûr.
Ici, nous constatons que tout cela n'existe plus. Les gens commettent des crimes et se comportent comme des bêtes, et tout ça avec des moyens d'une efficacité extrême, c'est-à-dire les armes modernes. Et ma thèse, et je reviens encore une fois là-dessus, c'est-à-dire l'après-guerre est en quelque sorte la conséquence de l'avant-guerre, parce que les comportements des êtres humains peuvent être renforcés, peuvent être dégradés par le vécu extrême de la guerre, restent finalement les mêmes. Si vous observez exactement ce qui se passe dans la pièce, c'est en quelque sorte, avec des traits plus marqués, ça reste un drame familial entre une femme qui a trouvé un autre amant, un homme qui revient, donc il aurait pu rester, donc je ne sais pas, pendant de longues années, donc ailleurs, et il revient donc avec un handicap majeur, il est devenu aveugle. Voilà, mais le fait d'être devenu aveugle n'explique pas encore le drame qui se déroule. Le drame qui se déroule s'explique uniquement par le fait que la femme mente. Donc ça, c'est un phénomène complètement, si vous voulez, privé, psychologique, qu'on vit pendant la paix, pendant la guerre, après la guerre. Ça veut dire les sources des maux sont les mêmes, c'est-à-dire les faiblesses des êtres humains. Et c'est ça que la pièce, celle-là, et d'autres pièces dont j'ai parlé au début, décrivent et analysent très bien. Et ces pièces-là se distinguent donc également d'autres types de pièces qu'on a vues, comme celle, par exemple, d'Olivier Py, qui décrit un phénomène objectif, qui documente donc les phénomènes, qui compte les morts, qui dit voilà, il y a un tel ou un tel mouvement. Non, là, l'analyse est faite chez Noren et par exemple chez Melchior, donc le diable en partage. Là également, l'analyse est faite, elle se fait à l'intérieur des familles, à l'intérieur du comportement humain.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je pense qu'il y a quand même un autre aspect qui est très spécifique. C'est dans cette intentionnalité de détruire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des guerres qui cherchent uniquement à tuer, mais qui cherchent à détruire l'individu dans sa dignité, dans son être profond, dans ce qu'il y a d'humain. Quand dans la pièce, justement, la femme dit que ce sont les voisins et amis, quand elle raconte à son mari que c'est le voisin et ami qui sont venus la violer et violer ses filles, on est dans un autre contexte que simplement l'idée de tuer. Il n'y a plus ce côté, on détruit le maximum de personnes. Quand Véronique dit on coupe là, on coupe là, on coupe là, ça fait partie des images d'horreur qu'on veut créer et dans l'intentionnalité de nuire chaque individu dans son être, sa culture, son appartenance, etc.
Myriam Revaud-Dallon voulait aussi réagir sur ce sujet.
Je voulais réagir à plusieurs choses. D'abord, je vais me limiter quand même. Moi, c'est la question de l'explication sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce que la question, c'est de voir de quoi y a-t-il ou n'y a-t-il pas explication, de quoi y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas explication. Une chose est de dire que les guerres fin de siècle sont des guerres absolument spécifiques. Hein. Nous sommes, je crois que nous sommes tous d'accord. Et que, bon, dans leur spécificité, et parce que, d'une certaine façon, ce sont des guerres du présent, nous n'avons pas nécessairement, je dirais, les éléments qui nous permettent de les appréhender. Mais enfin, quand même, quand Véronique dit on n'explique rien ou on n'explique pas du tout, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein, parce que, par exemple, où on n'a jamais cherché à expliquer, on a quand même cherché à interpréter, on a cherché à comprendre. Et l'approche géopolitique, quand elle ne se veut pas absolument totalisante, hein, n'est pas non plus une approche absolument non pertinente de toute façon. Donc ça c'est quand même extrêmement important, parce qu'en ce qui concerne les guerres de l'ex-Yougoslavie, il y a eu des tentatives aussi, ouais, d'interprétation qui ne rendent pas compte de tout, mais c'est précisément la volonté de rendre compte de tout qui est erroné. Mais quand on essayait d'analyser aussi les guerres de l'ex-Yougoslavie à la lumière de ce qu'on appelait le post-totalitarisme ou la décomposition du totalitarisme, et en particulier à la lumière d'une confusion, hein, parce que c'est quand même toujours sous le signe de la confusion que les choses se passent. Par exemple, la confusion entre l'ethnique et le politique. Ce qu'on a appelé soit l'ethnicisation du politique, soit la politisation de l'ethnique. Ce qu'on retrouve quand même au Rwanda dans le génocide des Tutsis par les Hutus. Donc il y a des approches, qui sont des approches certainement très partielles, mais au fond des tentatives d'interprétation qui, dans la mesure où elles ne prétendent pas tout totaliser, ont une certaine validité. Ce qui est inexplicable au sens de l'explication qui réduit, hein, de la causalité, c'est d'une certaine manière, alors vous faisiez référence, là je viens de lire et d'écrire sur le dernier livre de Jean Hatzfeld, une saison de Machette, ce qui est inexplicable, c'est que le mal le plus extrême ait été commis par des individus absolument ordinaires. Bon. Et là, ça c'est quelque chose qui est absolument capital, ça c'est absolument fondamental. Quand je parlais tout à l'heure de la tentative qui émane d'ailleurs de ce qu'on appelle la criminalité de masse pour effacer, le sens de l'innocence et de la culpabilité, il y a là quelque chose qui est extrêmement important. Et Hatzfeld, dans son livre, hein, qui est un livre absolument admirable, dans le deuxième, qu'est-ce qu'on voit quand on lit, quand on travaille sur ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'explication dernière au comportement de ces cultivateurs qui ont coupé les Tutsis exactement comme ils coupaient les récoltes et qui ont substitué, au fond, le génocide agricole, hein, le génocide de proximité, aux travaux des champs, de 9h30 du matin à 16h30 de l'après-midi, hein, en prenant le matin des nourritures, revigorantes pour pouvoir accomplir leur tâche. Et au terme du livre, il n'y a pas d'explication. Mais en même temps, Hatzfeld, là il y a quelque chose qui est inédit, et Hatzfeld se réfère lui-même au grand livre de Christopher Browning, hein, des hommes ordinaires, qui analysait le comportement de ce bataillon de police, de la police allemande, qui avait été chargé en 1942-43 d'exterminer les juifs du district de Lublin, hein, qui avait donc exterminé 80 000 juifs, et ce bataillon de la police allemande était composé de réservistes trop âgés pour aller combattre en première ligne au front, des gens qui n'étaient pas particulièrement nazifiés, ils venaient de la ville de Hambourg, qui avait été l'une des villes les plus idéologiquement résistante parce qu'elle était investie par les socialistes et les communistes au régime nazi et qui n'étaient pas du tout des idéologues particulièrement nazis. Mais donc il y a quand même ici, je crois qu'il faut essayer de clarifier un peu les difficultés. Il y a une spécificité absolument inédite des guerres, des conflits, de ces tentatives d'annihilation des guerres fin de siècle. Il faut à la fois respecter ces spécificités, puis en même temps, si on veut comprendre, on est bien obligé d'adopter un certain nombre de fils conducteurs. Ce à quoi il faut résister absolument, c'est à des types d'explications, je dirais, causales, hein, déterministes, hein, qui, d'une certaine façon, s'arrêtent, au bord, si vous voulez, de ce mal absolument extrême, et c'est bien ça, au fond, le problème fondamental auquel nous sommes encore confrontés, et on voit bien que c'est l'abîme devant lequel se trouve Hatzfeld dans une saison de Machette, que le mal le plus inconcevable, le plus monstrueux, le plus extraordinaire ait été commis par des hommes ordinaires. Ça résiste absolument à l'explication. Bon, et c'est bien le problème, quand même, bon, de, si vous voulez, d'une humanité qui est l'espace même de la manifestation de l'inhumain. Bon, ça, c'est un problème, je dirais, presque métaphysique.
Oui. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Myriam Revaud-Allonne, et je voudrais même y insister. Vous vous souvenez peut-être que, à diverses reprises, une polémique est revenue dans le commentaire autour de certaines œuvres attachées à l'écho de la Shoah, et en particulier au film de Lanzmann, et que Claude Lanzmann s'est toujours fâché très rouge, comme il est capable de le faire, sur la question de l'explication, qu'on lui a reproché à diverses reprises d'avoir fait, comme ainsi dit, écho au « Hier gibt es kein Warum » du capot ou du chef de camp, comme si la réflexion sur cette zone d'inhumanité devait se réduire à l'articulation de causes et de conséquences dans une logique parfaitement articulée et huilée. Ça ne signifie aucunement, bien entendu, qu'on se penche sur cette énigme de notre humanité, qu'on renonce à l'ensemble des facteurs qui nous permettent de comprendre comment les conflits éclatent, comment la violence se déchaîne. Je pense, en l'occurrence, que parmi ces facteurs, les idéologies, et je ne crois pas que Véronique me démentira là-dessus, continuent à jouer un rôle énorme. Peut-être prennent-elles la forme simplifiée, ramassée, commercialisée, quotidienne, des métaphores dont tu parlais, mais ce sont bel et bien des idéologies. Il n'y a pas plus de fin des idéologies qu'il n'y a de fin de l'histoire. Il peut y avoir dilution de ces idéologies. Et il peut y avoir des idéologies qui, en disparaissant, n'entraînent pas avec elles tout le monde qu'elles avaient porté et qu'elles avaient animé et qu'elles avaient habité. En effet, là je crois que l'explication de ce qui s'est passé dans les États d'Europe centrale et orientale, et en particulier dans les Balkans, et de ce qui se passe aujourd'hui aux marches de la Russie, ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce que vous avez ici appelé le post-totalitarisme. Il y a eu une incapacité à désigner, à expliquer, à analyser, à assumer le passé, une totale incapacité à convoquer l'avenir et à lui faire front, qui a, dans le présent, précipité un certain nombre de solutions qu'on va appeler identitaires ou communautaires pour simplifier les choses, qui étaient des solutions meurtrières. Hein. Et c'est dans des processus comme ça seulement que les cultivateurs fauchent leurs voisins comme ils ont fauché les blessés. C'est dans des processus comme ça seulement que l'instituteur de Priédor vient violer une de ses anciennes élèves, qui était par ailleurs aussi sa voisine de palier. Il se trouve que le théâtre, peut-être à cause de son ambiguïté foncière par rapport à tout ce qui relève de l'incarnation, son équilibre instable entre la capacité de représenter par le réel et puis sa capacité de suggérer par la fiction, il se trouve que le théâtre est un des lieux où il est possible de faire entrer en collision ces explications présentes, agissantes, opératoires, et les mobiles beaucoup plus masqués qui interviennent. Je trouve que de ce point de vue, bien sûr, il y a dans toute l'histoire du théâtre, à partir d'Eschyle, à partir des suppliantes, à partir des Perses, à partir des dix contre thèmes, il y a énormément de pièces qui sont des pièces, pour ainsi dire, d'après-guerre. Mais pour reprendre alors tu n'aimes pas les métaphores, mais pour reprendre la métaphore de Samuel Fuller qui disait le problème avec les films de guerre, c'est que ce sont des films guerriers. Je pense que nous avons des pièces de guerre, pour paraphraser Edward Bond, qui ne sont pas des pièces guerrières. Je pense que Mère Courage, par exemple, était dans un après-guerre. Mère Courage a été représentée pour la première fois en 1952 en France. Une des premières pièces sur la guerre, qui n'était en rien une pièce de guerre, en ce sens qu'elle cherchait dans dans l'humain et même dans quelqu'un qui pouvait être une victime de guerre, quelqu'un qui aussi pouvait en être un agent. Il y a deux façons de s'inhumaniser dans la guerre ou d'être inhumanisé. Il y a la position qui consiste à devenir victime et à se faire effectivement nier dans son existence, mais il y a aussi la position qui consiste à cause d'une exigence de survie ou d'un désir de domination, à mobiliser ses dernières forces pour se faire à son tour bourreau. Voilà les deux façons de s'inhumaniser. Le théâtre est un des lieux où il est possible de montrer à l'œuvre, chez les mêmes individus, quelque chose qui relève de la guerre interne du sujet. Et c'est, je crois, ce qui nous le rend précieux. Ça n'empêche pas de continuer, effectivement, à accorder un peu de crédit à des explications qui sont macro-politiques ou macro-économiques ou macro-idéologiques.
Bien sûr.
D'abord, sur le théâtre, moi, je suis d'accord que le théâtre, c'est un lieu où on a pu, pendant tout le conflit, parler différemment de tout ça. Mais pour les films, il ne faut pas être injuste. Il y a le No Man's Land de Denis Stanovic, oui, qui est tout à fait, etc., etc. Enfin bon.
Bien sûr.
Mais c'est vrai, il y a quelque chose dans le théâtre, l'espace du théâtre, qui joue avec les... D'abord, premièrement, il y a une chronologie des faits et il y a une logique historienne de cette chronologie. Il y a une logique qui sort, qui s'ouvre nécessairement des faits parce qu'il se trouve que les faits ne précèdent pas la cause, il se trouve qu'on a affaire à de l'histoire, à l'histoire des hommes. Déjà, ça entraîne des analyses. Les analyses du conflit et les derniers conflits, on peut les faire très précisément et c'est ce qu'on a fait. Donc, on fait des analyses. En fait, par exemple, pour moi, les analyses les plus pertinentes du conflit en ex-Yougoslavie à la suite de Lefort, Pierre Aster, etc., c'est évidemment l'histoire du post-totalitarisme. Donc on peut faire, il y a des histoires, on n'est pas dans une espèce de nuage absolu de questionnement. Non, il y a toujours une historicité qui est irréversible. Point. C'était ceci a précédé cela. Alors voilà, c'est comme ça. L'Allemagne a reconnu la Croatie après que Vukovar soit tombé et non pas l'inverse. C'est comme ça. Donc la guerre avait éclaté avant. Donc les faits, on ne les a pas pris assez en compte. Il faut respecter la logique des faits qui est presque une logique, je dirais, matérielle des faits. Alors ça, c'est un point. Moi, je voulais juste parler de cette espèce d'usage du point de vue géopolitique, c'est-à-dire de Sirius, des métaphores qui tendent à faire d'un espace historique un espèce de théâtre moral et psychologique d'entités qui ont des compétences, donc par exemple, je reprends les Balkans à la sauvagerie ou en Afrique au malheur total depuis des siècles. Alors, bon, c'est cette espèce d'usage dans les commentaires stratifiés. Et aussi dans les commentaires de la diplomatie, mais aussi dans la pensée de tout le monde, auquel on croit, on ne croit pas, je pense qu'il fait partie de l'ensemble des conditions de possibilité des massacres dont on parle. Parce qu'il les met en situation d'être le prix à payer. Le prix à payer pour des logiques sémantiques autrement élevées, excitantes, exaltantes. Ça a toujours été la position de la diplomatie française, en disant « vous nous faites » ou « contre » les gens qui protestent bêtement, sans humour, contre des massacres, on leur explique, vous n'avez pas compris, vous êtes des crétins, des humanitaires féminisés, sensibles, sanglotants, sans rationalité, vous n'avez pas compris les logiques à l'œuvre qui remontent, etc., etc. C'est vrai que moi, je suis pour l'analyse, puisque c'est ce que je fais tout le temps. Moi, je ne pense pas du tout qu'on ait de l'inexplicable ou de l'impensable. Donc moi, je suis pour l'analyse tout le temps. Mais un certain usage de la géopolitique contemporain, pour moi, il est absolument meurtrier. Alors, on peut le démontrer avec des choses très, très précises. Par exemple, le mot de haine pour les Balkans, les gens dans les Balkans disent non, on ne se hait pas. Le mot de haine qui a été tellement utilisé, il est devenu performatif. Après, évidemment, on veut démontrer qu'il y a de la haine, on peut toujours démontrer qu'il y a de la haine, parce que comment démontrer l'inverse, etc. Donc, il y a eu des mots qui étaient d'emblée des métaphores. Le mot de haine était d'emblée une métaphore, parce que qu'est-ce que la haine ? Et qui ont eu un usage absolument déterminant dans l'acceptation des faits auxquels on croyait quand on avait 16 ans peut-être que jamais on les accepterait, au moins qu'on les accepterait pas tranquillement. Alors ce que je veux dire, c'est que même Myriam, le groupe d'anciens joueurs de copains sportifs étudiés par Asfeld, étudiés non pas étudiés, mais dont les paroles sont mises dans le cadre d'un livre qui nous les restitue en nous les laissant dans leur énigme. Mais même eux et même les hommes de Christopher Browning, et même d'autres cas qui pourraient être étudiés, on peut les mettre en situation d'être étudiés par les sciences sociales, notamment la psychosociologie. Quel rôle, par exemple, Claudine Vidal dire le mot machette, c'est presque du révisionnisme. Derrière, il y a des kalachnikovs, et si tu marches pas dans le truc, et même la bande, elle le dit très souvent, et il y a des gens qui font quand même des cauchemars, et tout le monde ne fait pas ça, et combien meurent parce qu'ils ne le veulent pas le faire, etc. Vu de près, c'est bon, le voisin qui tue le voisin, on a là, alors on va regarder nos voisins en disant bon, parce qu'on ne trouve pas la question qu'est-ce que le lien de voisinage, mais aller dans une copropriété parisienne, il y a de la haine, il y a du conflit, il y a de l'envie de meurtre, etc. Le lien de voisinage est peut-être un mythe. Le lien, cette histoire, le mot lien lui-même, qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, du coup, on est étonné qu'il s'entretue. Le rôle, par exemple, des rumeurs qui n'étaient plus démenties parce qu'elles étaient reprises par la propagande que le voisin vous empoisonnait, eh bien, une rumeur comme ça fonctionne partout. Ce n'est pas une question qu'on a perdu l'humanité. C'est que le mot d'humanité ne nous sert absolument à rien là-dedans. Et les massacres dont on parle, quand on tue l'être humain, l'être humain dans une guerre est toujours tué avec son humanité. L'ennemi est massacré dans son humanité. Je ne dis pas que... Pour moi, la spécificité des guerres contemporaines n'est pas dans l'inhumanité de la guerre, parce que franchement, on peut remonter, on aura toutes les scènes dont on a parlé. Et on aura... Mais elle est dans le déphasage difficile à décrire, philosophique, historique et politique, entre un certain type de pratiques qui ont joué, par exemple, en ex-Yougoslavie avec le couteau, alors que les kalachnikovs étaient là, avec la machette, alors que les kalachnikovs étaient là, alors qu'il y a eu des bombardements dont on n'a jamais rien su, parce que le ciel était violé sans cesse en ex-Yougoslavie. Donc des pratiques d'une violence extrême contre les civils, parfaitement innocents, et une idéologie à l'arrière qui n'a plus le sens qu'elle avait quand ces pratiques étaient dirigées par, justement, un racisme étayé. Il faut voir ce que c'est que le racisme des années 50 encore, le racisme colonial, etc. Et donc c'est ça, pour moi, c'est déphasé. C'est la modernité des guerres, non pas en tant qu'elles seraient pires et plus déshumanisantes, non, mais en tant qu'il y a un déphasage entre des pratiques de cruauté et les arguments de cette cruauté. La logique du cruel, du pouvoir politique qui les pratique, étant elle très claire, c'est pour Milosevic, c'est très clair, il n'y a pas ni à faire de psychanalyse, ni à aller chercher la lune, c'est donc un groupe politique qui veut garder le pouvoir économique et politique sur l'espace et qui ne voulait pas être déboulonné, et c'est vrai pour le régime algérien, et c'est vrai pour Poutine. Je veux dire, on ne va pas chercher la lune, les pratiques sont d'une totale humanité, dans l'inhumanité, comme d'habitude, sauf que les raisons, pourquoi pourquoi cette caricature d'une chose qui normalement est tombée en désuétude. Et du coup, ça joue le rôle du révisionnisme de tout le monde, parce qu'on dit ces gens-là, cette cruauté à laquelle on ne croit pas, déréalise paradoxalement le terrain. Et donc on dit, mais c'est incroyable, mais comme c'est, etc. Et donc le terrain est entièrement déréalisé. Et la cruauté, paradoxalement, sert d'argument révisionniste au cruel. Mmh. Et ça, on est arrivé, et avec les commentaires, on pourrait le déplier beaucoup plus finement.
Alors, on va profiter du temps qui nous reste pour dialoguer avec la salle. Je voulais simplement dire, simplement pour ponctuer cette première partie, peut-être une des conditions pour passer de la guerre à un après-guerre, et quelque chose qui ne soit pas simplement un entre-deux-guerres ou un nouvel avant-guerre, c'est de changer effectivement la vision qu'on a de la politique, non plus pour déterminer l'ennemi, mais pour construire un espace de résolution des conflits. Si la violence à l'état latent, présente partout dans la société, française, ô combien, ne dégénère pas sans cesse en boucherie, c'est sans doute parce qu'il demeure dans la construction des récits, dans la construction des institutions, dans l'aménagement d'un espace public, peut-être au sens où Jürgen Habermas peut l'entendre. Il reste un certain nombre de fondements, mais il y a aussi des pratiques pratiques qui sont investies et qui permettent de métaboliser cette violence, de la canaliser ou de la contrecarrer. Hein. C'est ces conditions-là qui sont si difficiles à trouver dans les pays que nous n'avons pas tous nommés, mais qui ont été souvent bouleversés en Europe et auprès de d'autres continents par les guerres récentes. Mais madame, vous avez la parole.
Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez, mais probablement je ne suis pas très bien saisie, en fait. Je pense qu'il y a différents niveaux dans votre intervention. Alors, je vais juste dire ce que je ressens, parce que quand vous parlez des différents...